Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés se charger. L'air l'aidait encore. Et plus profond encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Le bonheur, c'est la somme de tous les malheurs qu'on n'a pas. A dit Marcel Achard. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. Vous êtes à l'émission Un livre découvert. Le bonheur, il en sera question, notamment le bonheur à deux, ou pas. On verra ça avec Louise Mercier, qui est une de mes invitées et qui est déjà là, mais pour l'instant, générique.
La table des matières.
Alors donc, mes amis, je reçois deux Louises aujourd'hui. D'abord au téléphone, Louise Boulanger. Elle est déjà en ligne. Elle le piaffe d'impatience à l'idée que je lui parle et surtout qu'elle nous parle d'un livre, Sous le soleil de la Toscane, une maison. J'ai aussi enregistré, il y a déjà quelque temps, quelqu'un qui est passé par le Québec, prix Goncourt du premier roman quand même, et prix littéraire Marie-Claire Blais, Québec, France. Il s'appelle Alexandre Postel. Le titre de son livre, Un homme effacé. Et puis, en début de deuxième demi-heure de cette émission-là, nous recevrons Louise Mercier, qui a écrit et qui a lu bénévolement ici chez Vues et Voix « Le bonheur, justement, la dépendance à soi-même ». Louise, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Et puis, il y aura la rubrique de bouche à oreille, la page de littérature, en quelque sorte la bande-annonce pour la semaine prochaine. Je vous annonce que nous recevrons Denise Bombardier, si tout va bien, vous savez comment c'est, qui viendra nous présenter le dictionnaire amoureux du Québec et puis le cas Édouard Einstein de Laurence Exic que nous présentera Gérald Cousineau. Il y aura des nouvelles et des livres. Nous reparlerons notamment de L'Orangerie de Larry Tremblay qui n'en finit pas, qui croule littéralement sous les prix. Et nous finirons l'émission par quelques nouveautés en rafale.
Les livres audio, ils en mangent.
Bonjour Louise.
Bonjour.
Comment allons-nous?
Ça va bien.
Ça va bien. Bon, Louise, vous avez accepté une fois de plus de nous présenter un livre que vous avez particulièrement apprécié et que vous aviez envie de partager avec l'ensemble de nos auditeurs. Je vous laisse de donner le titre et l'auteur.
L'auteur, c'est Francis Mays, et le titre, c'est « Sous le soleil de la Toscane », après, disons, le dur hiver et le printemps qui s'en est suivi. Donc, j'avais une furieuse rage de soleil, fait que j'ai décidé d'aller replonger. J'étais allée rechercher un livre dans le fond d'une caisse, puisque ce livre-là a été rendu disponible à l'INCA en 99 et au SQLA en 2006. Mais je me suis dit que des fois, ça pourrait être plaisant de ressortir certains documents, même s'ils ne sont pas les plus récents.
Non, mais je comprends. Je voudrais, si vous me le permettez, épeler Maze. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'on dit Maze, Maze? Bon, vous dites Maze. On l'épelle M-A-Y-E-S pour les gens qui voudraient faire une recherche. Alors, c'est une aventure un peu spéciale que raconte ce livre.
Oui, en fait, c'est une aventure, mais c'est une aventure vraie, puisque cette dame-là est professeure d'université à San Francisco et son conjoint aussi. Et ils ont décidé au début d'aller des années 90 d'acheter une maison en Toscane. Une maison de campagne qui avait été abandonnée, je crois, depuis 30 ans. La maison et tous les terrains avaient été à l'abandon depuis environ 1960.
À un moment donné où la Toscane n'était pas à la mode, quoi. À un moment donné, parce que maintenant, ça a un peu changé, je pense. Hein. Tout le monde s'arrache les quelques parcelles de terrain qu'il reste.
Oui, j'ai l'impression que pour pouvoir aller acheter ça, il faut avoir un petit peu plus de sous que mon humble retraite de fonctionnaire.
Et la mienne! J'en ai pas!
On va se contenter de vue sur le bungalow du voisin à Charlebourg.
Oui, oui, d'accord.
Vous savez ce qu'on dit, hein? S'il est moche, à la limite, il vaut mieux acheter le bungalow, comme ça, vous ne le verrez pas. Mais si vous habitez en face, ah, c'est ça toujours le problème. Alors, Louise, je vous laisse nous parler de ce soleil de Toscane.
On pourrait dire qu'il y a trois volets dedans, mm-hmm, qui pourraient plaire à la fois aux amateurs de voyage, aux amateurs de cuisine et aux bricoleurs.
Ah oui, parce que c'est un livre qui a des parfums.
C'est épouvantable. Juste à lire ce livre-là, vous engraissez 10 livres. au départ, aux amateurs de voyage, parce que sa fameuse maison, elle en sort quand même des fois, là. Fait qu'elle se promène à travers la campagne italienne, la campagne de la Toscane et des régions environnantes, et elle nous raconte ses expéditions et ses aventures. Il faut dire qu'au départ, elle avait tout simplement acheté un gros cahier, puis elle mettait régulièrement ses notes dedans. Elle pensait pas que ça deviendrait un volume, mais c'est par la suite que c'est arrivé, là. Elle nous raconte toutes ses aventures à la campagne, dans la campagne italienne, et en plus de ça, pour les amateurs d'architecture, ben c'est un peu toute la restauration de cette maison-là qui en a bien besoin, puisqu'elle a eu 30 ans d'abandon. Puis c'est là qu'on va voir les différences culturelles avec nous. Nous, si on décide de faire un radoub sur une maison, l'image qu'on a, c'est un menuisier avec une scie, ronde, puis une cloueuse. Mais là-bas, les gens les plus importants, c'est les maçons.
Ah oui.
Puisque c'est des maisons en pierre. T'sais, pour nous, les Québécois, c'est quand même quelque chose d'assez exotique, là. Avec nos maisons en 2x4 puis en J-Brock, là. C'est différent. Même à un moment donné, elle décide d'installer des spots dans sa cuisine. Je sais, ça énerve pas personne, mais les Italiens là-bas, quand ils entendent ça, ils disent « Oh, maman, puis voit passer les euros, parce que là-bas, il s'éclaire avec des 40 watts, l'électricité étant tellement chère. »
Oui, c'est vrai.
Et pour nous, qui a beau se plaindre de nos hausses d'électricité, c'est quand même minime à se comparer ce que ces gens-là paient.
Et puis, en plus, aller creuser la pierre, c'est quelque chose pour aller mettre ces spots-là. Est-ce qu'ils ont été bien accueillis par les Italiens?
Il semble bien avoir été bien accueillis par leur entourage, parce qu'elle nous parle des gens qui viennent travailler chez eux, comment ça fonctionne, qui est-ce que t'engages, ça te prend telle personne pour obtenir tel permis, puis elle parle de ses voisins, elle nous parle de ses expéditions au marché.
Ah oui.
Ça, là, c'est vraiment pour les amateurs de bouffe, c'est écœurant.
Ah oui, hein? Les produits,
on aurait vraiment envie d'aller s'installer à sa table. C'est sûr qu'avec les années, c'est peut-être un petit peu moins exotique, parce qu'ici, on a eu José Di Stasio, Stefano Fajita, tous ces gens-là nous ont introduit à une autre cuisine italienne, disons, que spaghetti meatball, là.
Aux boulettes?
Oui, spaghetti boulette avec pizza à l'américaine.
Oui,
là.
Oui, c'est ça, c'est sûr.
Ce qui était peut-être moins le cas, là, 15-20 ans, là. Mais vraiment, quand elle nous parle de la cuisine de cette région-là, qu'elle nous explique que c'est une cuisine de pauvre. Mais tu sais, une cuisine de pauvre dans un pays où ils poussent tant de légumes, de fruits, de citrons, de vin, on est quand même loin du Québec de mon enfance avec patates, carottes, navets et petites fèves en conserve, là.
Si je peux me permettre, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, Louise, j'ai ici un tout petit extrait qui est aussi la préface, qui dit « Le lecteur, je l'espère, est un ami venu nous rendre visite qui apprend à verser la farine sur le gros plan de travail avant d'y mettre l'œuf, qui se réveille au quatrième cri du coucou caché dans les tilleuls et qui descend les terrasses du jardin en chantant pour les vignes. Un ami qui cueille de grands bocaux de prunes m'accompagne au fil des collines dans ces villages dont les hautes tours débordent de géraniums. Qui veut voir les olives le jour où elles apparaissent ?» Rien que là, les géraniums, les olives, les prunes, les tilleuls.
C'est loin de mon terrain aujourd'hui, si je jette un petit coup d'œil dehors, là, avec mon gazon jauni.
Non, faites pas ça. Faites pas ça, c'est déprimant. Non, faites pas ça du tout. Et c'est un livre qui se lit bien,
c'est un livre quand même qui se lit bien. Moi, je l'ai, j'ai trouvé du plaisir même, je l'ai relu. Moi, je l'avais lu, mon Dieu, au moment où je l'avais lu, je pense qu'on est encore avec des lecteurs de cassettes Caspis, les gros GI carrés, là, qui pesaient à peu près une tonne et quart, pour vous montrer que ça date quand même c'est probablement au siècle passé, là.
Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette maison-là, par exemple, à Côte-Île-Long? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait, oh, wow?
Ben, moi, c'était un peu tout l'ensemble de ce qu'on trouve, ouais, qu'on n'a pas chez nous. Là, j'ai déjà été quand même un peu en Italie, mais j'ai jamais rentré, mettons, d'une maison en Toscane. Là, j'ai un petit peu Rome, un petit peu Venise, un petit peu Florence. Là,
wow.
Mais je rentre pas chez les gens. Là, c'est comme des gens qui viennent, les Européens qui viennent visiter Québec, ben ils viennent pas voir notre maison à Charlebourg. Qu'est-ce que ça a l'air, là? Que c'est différent de chez eux, là.
Oui, mais tout a son charme.
C'est ça, ben
Louise,
là, le
regardez.
Charme des uns et l'ordinaire des autres, hein?
Oui, mais c'est ça. Regardez, moi, il y a 30 ans, j'ai quand même succombé à un pays qui s'appelle le Québec et les images que j'ai, moi, ce ne sont pas que ces bungalows-là de Charlebourg, mais toutes choses qui m'émeuvent encore aux larmes, comme quand j'arrive au détour d'une route et que je tombe sur le Saint-Laurent avant Baie-Saint-Paul. Ben, excusez-moi, oh, mais à chaque fois, c'est... Alors, il y a quand même... Il ne faut pas minimiser le Québec,
non,
mais
non,
ça me fait de la peine.
Dis, l'exotique d'un et l'ordinaire de l'autre. Là.
Oui, ça, c'est très bien dit. Est-ce que c'est de vous, ça?
Moi, je sais pas, je viens de la penser, là.
Ah, oh ben, écoutez.
Je l'ai peut-être déjà lu en quelque part, là, mais.
Ah, non, mais moi, là, je vous trouve vraiment, parce que j'aime beaucoup cette phrase-là. D'ailleurs, il faudrait que je la note. Comment vous m'avez dit ça? L'exotisme de l'un et l'ordinaire de l'autre.
L'ordinaire de l'autre, qu'on peut dire, là.
Ben, c'est très, très beau, vraiment. Moi, je serais vous, j'écrirais.
Ah, peut-être un jour.
Qu'est-ce que vous lisez?
Je demande à certaines personnes de mes connaissances de me donner des cours.
Ah ben oui, mais oui, mais oui, mais oui, mais oui, pourquoi pas. Louise, on peut maintenant le dire parce qu'on prépare en ce moment une émission spéciale qui sera diffusée à la fin du mois de mai parce que Dieu que le temps passe vite, mais nous allons célébrer bientôt la 100e émission d'un livre découvert. Et vous avez accepté parce que j'ai envoyé des invitations à beaucoup de personnes, soit non-voyantes, aveugles totalement, ou qui ont une déficience perceptuelle, ce qui est plutôt votre cas. Et vous avez accepté, vous avez été dans les premières à accepter à venir. Ça veut dire que dans quelques semaines, on sera ensemble en studio. Oh, que je suis contente.
On pourra discuter des recettes de Mme Mays, parce qu'elle a même des chapitres complets de recettes. Les amateurs cuisine, là, il y a certains chapitres, il y a au moins un ou deux chapitres où elle ne donne que des recettes.
Alors, écoutez, pour vous procurer ce livre-là, il est disponible au SQLA. Il est, non, c'est par l'INCA, hein, je pense que vous...
Il est disponible, bon, faut s'entendre, il est disponible aux deux endroits.
Aux deux endroits.
Sauf qu'au SQLA, il est disponible seulement en CD.
D'accord.
Mais à l'INCA, les gens qui veulent télécharger sur leur stream, comme j'ai fait, là,
d'accord,
il est disponible en téléchargement à l'INCA.
Parfait. Louise Boulanger, merci. On se retrouve dans quelques semaines en direct en studio.
Dans quelques semaines.
Merci, Louise, et bonne
Bonjour.
Fin de journée.
Au revoir.
L'invité spécial.
C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rencontrer ici au Québec un prix Goncourt pour un premier roman et également le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais. Je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de cet auteur-là. Il s'appelle Alexandre Postel. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Je suis vraiment contente que vous ayez accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Un homme effacé. C'est votre premier bouquin,
oui.
C'est votre premier livre. Et comme je le disais, vous avez déjà reçu plusieurs prix et notamment quand même ce prix prestigieux qui est le prix Goncourt du premier roman. Et récemment, vous avez reçu au Salon du Livre le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais, parce que Marie-Claire Blais est la marraine de cet événement-là. C'est quelque chose.
Ah bah oui, c'est quelque chose. Et ce prix donc, qui est en fait organisé par l'association Québec-France.
Oui, c'est ça.
C'est un prix très particulier. D'une part, c'est un prix de lecteur. Qu'il est attribué par des comités de lecteurs et au total, c'est 150 lecteurs qui se prononcent, qui discutent du livre, qui...
Vous étiez combien en compétition ?
Qui échangent trois romans qui étaient sélectionnés sur la liste finale. Et donc, bon, c'est toujours un prix un peu particulier, un prix de lecteurs. Et qui plus est, des lecteurs qui se trouvent de l'autre côté de l'Atlantique.
Ah oui.
Et parfois, voilà, très loin. En Abitibi, par exemple, j'y étais l'autre jour et c'est une région absolument incroyable. Et bon, voilà, c'est très insolite pour moi de savoir que ce livre, finalement, a une existence comme ça. Voilà.
Et ce qui est formidable, c'est que du coup, vous qui n'étiez jamais venu ici, vous en avez sûrement plus vu que n'importe quel touriste français qui serait venu simplement ici en vacances.
Oui. J'en suis sûr. D'une part parce que en raison de la la mobilité des rencontres, puisque j'ai rencontré beaucoup de ces régionales de lecteurs. Et puis d'autre part, parce que un touriste ne rencontre généralement que des commerçants, surtout des commerçants.
C'est vrai. Hein,
Là, j'ai eu un accès à des vies, en fait, à toutes sortes d'individus, de personnes qui m'ont parlé, que j'ai rencontrées. Je suis allé chez eux aussi. Ouais. J'ai été accueilli, hébergé parfois.
Alors, vous allez ramener des beaux souvenirs du Québec.
Oui.
Faites attention parce qu'il y en a qui viennent comme ça, puis ils restent.
Ouais. Je me demande si ce n'est pas votre cas, d'ailleurs.
Vous avez tout compris. Alexandre Postel, il faudrait quand même que nous parlions de ce livre-là, Un homme effacé, que j'ai vraiment dévoré. Moi, voyez-vous, en principe, quand je lis un livre, je mets toujours des petits collants puis des petites notes partout. Et puis là, honnêtement, j'y arrivais pas. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Je me dis, je vais pas perdre du temps à mettre en plus un collant là. Je veux savoir. Alors, je tournais la page. OK. Mais c'est pas grave parce que je me suis quand même très bien préparée, rassurez-vous. Mais vraiment, ça, c'est bon signe. Là, quand il n'y a pas trop de collants, ça veut dire que livre dévoré. Attention, livre dévoré. Un homme effacé par Alexandre Postel. Vous nous faites un petit résumé?
Oui.
Puis on s'en reparle.
Très bien. C'est l'histoire d'un personnage qui, comme le titre l'indique, n'est pas très à l'aise dans les rapports sociaux, qui est assez timide, assez introverti. C'est un universitaire, donc un intellectuel, ce qui complique un peu aussi les choses parfois, dans le rapport aux autres, le rapport pratique aux autres. Et il est accusé un matin par la police d'avoir téléchargé des images à caractère pédopornographique, comme on dit. Alors lui, il sait qu'il ne l'a pas fait, mais la police est persuadée du contraire à juste titre, c'est-à-dire qu'il y a quand même une trace d'une certaine façon.
Oui, puis il y a une série d'événements qui font que on pourrait penser absolument qu'il est coupable.
Et oui, c'est ça. C'est qu'il y a une trace sur son ordinateur. Bon, donc il faut bien. Il y a là une énigme qu'il faut résoudre, et le roman entreprend de la résoudre. Et puis aussi, le problème, c'est que c'est un individu qui ne sait pas se défendre, n'est pas très à l'aise pour se défendre, et qui provoque chez les autres un sentiment étrange. Ils sont tous persuadés de sa culpabilité.
Le genre de gars secret, si vous me permettez, tellement secret, finalement tellement introverti que oh là là, il cache quelque chose.
Solitaire,
c'est ça,
veuf,
un peu ça. Oui.
Professeur, donc fréquentant des individus, des mineurs. Tout ça forme une sorte de faisceau de présomption.
Alors bon, on va pas tout dévoiler, mais je me disais en préparant l'émission, ça va pas être facile de cacher des choses parce que je trouverais ça dommage de tout dire. Mais ce qui est certain, c'est que ce livre est en deux parties.
Oui, on peut le dire tout de suite. Oui.
Bon, j'adore les titres d'ailleurs. Il y a le premier, c'est le moment féroce ou atroce. Je ne sais jamais parce que je confonds un petit peu les deux. Aidez-moi. Le premier, c'est la période.
Le premier, je crois que c'est les jours atroces.
Voilà, les jours atroces. Et le deuxième, ce sont les jours féroces.
C'est ça.
Mais je vous dis, moi, je les mélangeais un petit peu. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment jusqu'à son inculpation. Parce
condamnation.
Et jusqu'à sa condamnation parce qu'il sera incarcéré. Et ensuite, la deuxième partie commence en prison. Et là, à un moment donné, on peut dire qu'il sera finalement libéré.
C'est une erreur judiciaire et la vérité éclate. Mais le roman ne s'arrête pas là.
Non. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que c'est là où, comme je vous le disais hors d'onde tantôt, le délit pour lequel il est incriminé importe peu, je veux dire, dans ce roman-là. C'est pas ça. Le sujet, c'est
pas
quoi ? C'est le paraître.
Oui.
On a l'impression que ce sont les autres qui sont les voyeurs.
Le sujet, c'est une existence captive dans le regard des autres.
Exactement.
Dans un premier temps, comme vous l'avez bien résumé, il est coupable, il passe pour coupable aux yeux des autres, et donc tous fabriquent toute une série de fictions, délires sa culpabilité.
Oui.
Et vous avez raison de souligner, je suis d'accord avec vous, c'est ce qui m'a le plus surpris en écrivant le livre, disons. C'est une fois qu'il est innocenté...
Ouais.
Les choses ne sont pas simples non plus, pour autant.
Et
justement, dans ce genre dans les faits divers impliquant une erreur judiciaire, une fois que l'erreur est révélée, on s'arrête là. Le traitement médiatique s'arrête là. On laisse l'individu à sa liberté retrouvée. C'est un état qui n'est pas du tout si simple. Et parce qu'il est considéré comme absolument innocent, comme une sorte de martyr, et c'est tout aussi désagréable que d'être considéré comme absolument coupable.
Il supporte plus les gens qui viennent puis qui vont lui dire « Oh, est-ce que vous avez besoin de quelque chose ?» À un moment donné, c'est comme « Bon, regardez, lâchez-moi !»
Voilà, c'est ça. Ce qu'il veut, c'est être autonome, indépendant. Et c'est quelque chose qui lui est refusé, d'une certaine façon, parce qu'il est absorbé par... par une sorte de pression sociale.
Et là, par contre, on ne dira pas les quelques événements qui, parce qu'ils sont tellement surprenants. Moi, je n'ai rien vu venir. Ça m'a vraiment semblé très brillant. Il y a quelque chose que j'aime bien aussi dans ce livre. Il y a des personnages qui sont complètement... loufoques, non, ce n'est pas le bon mot. Par exemple... sa femme, Sylvia, qui a peint des huîtres toute sa vie, puis au moment où elle a arrêté de peindre des huîtres, finalement, sa carrière a plongé. Quand elle a essayé de repeindre des huîtres, ça n'a pas marché du tout. Bon, c'est génial comme idée, parce que là, moi, je les voyais, il me semblait voir les tableaux avec les huîtres. Parlez-nous de cette Sylvia-là. Elle vous est venue comment? Ça vient comment, un personnage comme ça?
Alors, ça vient du fait qu'on veut créer un veuf. Bon, parce que c'est plus suspect. Un veuf, en même temps, ça peut être intéressant d'explorer un peu quelques souvenirs. Ce n'est pas un roman du veuvage.
Non, pas du tout.
Mais à un moment, il se souvient comme ça de cette femme avec laquelle il a vécu. Et tant qu'à faire, me dis-je en écrivant cette histoire, autant que, d'une certaine façon, le destin de cette femme réponde au destin du personnage. Qu'est-ce qu'elle subit, cette artiste? Elle subit un même phénomène d'emprisonnement dans un regard qui vous fige, qui vous réifie, qui vous transforme en une chose.
Ouais.
Et elle a connu un certain succès, effectivement, en faisant des natures mortes représentant des huîtres. Et à partir du moment où elle envisage de changer sa manière, ça ne fonctionne plus parce que dans l'esprit du public, elle est la femme qui peint des huîtres.
C'est ça.
Et donc, il y a ce phénomène comme ça de captation, d'emprisonnement dans le regard des autres que, d'une certaine façon, le personnage, à son tour, subit. Et d'une autre façon, donc il y a cette symétrie que j'ai cherché à créer. Et puis, c'est aussi une sorte de respiration parce qu'on parle d'art, on parle de peinture ça nous sort un peu de l'univers étouffant de la narration.
Dans votre écriture, Alexandre Postel, la poésie n'est jamais bien loin. Même, à un moment donné, je me suis pris une note ici, poésie carcérale. Dieu sait si au début, quand il arrive dans la prison avec cette espèce d'affreux bonhomme qui a violé je ne sais plus combien d'enfants avec sa femme, enfin bon, ça c'est encore autre chose.
Son co-détenu, oui.
Oui, c'est ça qui est son co-détenu. À un moment donné, il se couche apparemment sur la couchette du dessous. Et là, vous écrivez « La dérisoire armature de leur lit superposé avait acquis la complétude d'un microcosme et les deux hommes roulaient dans le sommeil comme deux astres dans le silence de l'univers. » Et on est tellement, c'est tellement poétique dans ce que j'imagine être une cellule complètement... on peut s'imaginer une cellule, quoi. Je veux dire, manquant de poésie totalement.
Oui.
Vous avez une belle écriture. Hein.
Je suis très content que vous ayez été sensible à ces détails, parce que souvent, c'est l'impression première qui transparaît quand on résume le roman, c'est un univers assez sombre, assez pessimiste, mais dans le détail de l'écriture, j'ai cherché à capter aussi des moments qu'on peut qualifier de poétiques.
Absolument.
Que, comme vous dites, ça n'est jamais loin. Cette poésie, c'est tout simplement la vie aussi, dans ce qu'elle a de simple et de beau, quelles que soient les circonstances.
Mais moi, j'ai trouvé ça très poétique et toute la fin dont il ne faut surtout pas que je parle, moi, j'ai trouvé ça magnifique, vraiment. Et puis, même aussi, il y a des trucs qui m'ont carrément fait rire, À un moment donné, quand vous reprenez l'expression, au lieu de dire « quand les poules auront des dents », quand les poules auront des gants », ça, j'ai trouvé ça tellement drôle. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Albert Prince, comme le prince Albert. Puis je me suis dit que c'était beaucoup un livre aussi sur la colère, parce que je trouve qu'il y a des passages sur la colère où vous la décrivez tellement bien. Et ça aussi, c'est pour moi, c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, la colère est très, très présente là-dedans. Puis
oui, oui,
ça
oui.
suinte, la colère, mais la colère refoulée, quoi, celle qu'on ne dit pas.
C'est ça, une forme d'indignation, de rage. Et c'est je trouve que c'est un puissant carburant romanesque. C'est, ouais. C'est une émotion généralement perçue très négativement, la colère, dans les rapports sociaux. Évidemment, il vaut mieux en être... protégé,
oui.
Mais comme moteur, disons, narratif, c'est quelque chose d'important.
Ah oui, absolument. Oui. Ouais. Et puis, bah, écoutez, avant de finir, je voudrais quand même qu'on dise à nos auditeurs que vous êtes professeur de littérature française,
oui. Oui.
Donc vous êtes vous-même universitaire.
Pas tout à fait. Enfin, j'enseigne dans un lycée. Mais...
Dans un lycée, d'accord.
Mais okay. Bon, j'ai fréquenté des universitaires. Oui, oui.
Oui. J'ai lu dans un dossier de presse qu'on parlait peut-être d'un héritage littéraire qui pourrait aller vers Albert Camus. Et c'est vrai qu'on y pense, effectivement, au livre L'étranger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vraie référence pour vous?
Oui. Oui. Oui, oui, c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je l'ai lu 4 ou 5 fois, donc sans être absolument conscient de cette influence, il est certain que j'ai dû la subir. Oui.
Et puis, qu'est-ce que je voulais... Écoutez, j'avais encore, évidemment, 10 000 questions à vous poser. Bon, l'Internet aussi, là-dedans, ça a quand même, c'est quand même très, très pertinent. On s'entend que s'il n'y a pas l'Internet, ce livre n'existe pas.
Oui, j'ai essayé de faire un roman qui capte, d'une certaine façon, cette vie virtuelle dans laquelle nous sommes de plus en plus plongés.
Oui, oui, oui. Ouais. Est-ce qu'il est près de vous, cet individu-là, ou est-ce qu'il est très, très éloigné de vous?
Bon. Biographiquement, il est assez éloigné de moi, mais évidemment, à un certain niveau, qui n'est pas forcément conscient, il est certain qu'il y a une proximité.
Une proximité. Enfin,
sinon, je n'aurais pas passé tant
d'heures à le créer. Je vous imagine mal très, très extraverti comme individu, Alexandre.
Je crois que vous avez raison.
Écoutez, je voudrais souligner d'abord à nos auditeurs que nous faisons tout en ce moment pour que ce livre d'Alexandre Postel, Un homme effacé, soit enregistré par nos soins ou par un autre organisme afin qu'il soit disponible à Montréal. Pour l'instant, il ne l'est pas en version audio adaptée. Mais je vous prie de bien vouloir noter, et c'est important, souvenez-vous, lorsque nous avons reçu Gérard Saint-Denis à cette émission, il nous a dit, mais il y en a d'autres, des sites internet qui nous sont accessibles à nous, non-voyants. Je voudrais notamment vous citer la bibliothèque numérique francophone accessible. C'est facile, il y a 4 lettres qu'il faut que vous reteniez, BNFA. BN comme Nathalie FA.ch. Je suis allée vérifier, votre livre est absolument disponible en version audio pour les non-voyants. Il suffit que vous vous inscriviez et c'est très facile de faire cela. Donc à ce moment-là, pour avoir accès à ce livre, Un homme effacé d'Alexandre Postel, qui, je vous le rappelle, est prix Goncourt du premier roman 2013. Et puis également qui vient de recevoir le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais 2015. Alexandre Postel, merci d'être venu chez nous dans notre studio.
Merci à vous, merci de votre invitation.
Et bonne continuation. Alors je vous rappelle que c'est Clotilde Seille qui anime cette émission à livre découvert. Restez avec nous tout à l'heure. Dans quelques minutes, je reçois Louise Mercier. On se demande si le bonheur, ce ne serait pas la dépendance à soi-même. C'est le titre de son bouquin. Et n'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission quand bon vous semblera sur www.vuesetvoix.com.
Écoutez À livre découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
C'est encore loin l'amour, à l'horloge du couple, je suis à la bourre. Je vais à la piscine, au ciné, aux expo. Je prends des vitamines et des cours de tango. Mais je parle à mes plantes, ça fait si longtemps que la célibatante attend le prince charmant. C'est encore loin l'amour et je marche et je cours et je vais de l'avant. Je repars au galop, à part un peu de temps, j'ai tout ce qu'il me faut, des amours ou plutôt des amants. seulement de passage, au fond rien de nouveau. J'ai le cœur au chômage. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresse. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour. Est-ce qu'il arrive un jour où j'ai raté mon tour? À quelle heure ça commence? Est-ce que c'est de ma faute ou bien juste la chance? On regarde les autres et les autres n'ont pas le cœur dans le coma. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez moi? C'est encore loin l'amour où j'appelle au secours. Et puis qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Mais en fin de soirée, quand je couche avec moi, c'est peut-être le prix pour garder le contrôle. Alors je vis ma vie, mais j'ai le second rôle. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresse. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour, et j'en rêve et j'en crève, et je compte à rebours. Je compte jusqu'à toi que je ne connais pas. Ça fait comment déjà d'avoir un cœur qui bat? N'en déplaise aux copains, mon néant quotidien, c'est le grand méchant rien, parce que je le vaux bien. C'est encore loin l'amour, à quelle heure et quel jour? Et puis quel âge est-il, et pour qui, mais pourquoi? Je joue face et ses piles, oh non, je ne veux pas rejoindre la galère. Des naufragés du temps qui auraient bien aimé faire ou refaire un enfant. Et la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresse. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? Oui, la nuit, dans mon lit, j'ai des carences en caresse. Au fond, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est encore loin l'amour. Est-ce qu'on peut me jurer qu'il fera jour un jour et que ça vaut la peine? Il ne faut pas craquer. Je veux juste qu'on m'aime, c'est trop demandé. Est-ce que je suis jolie? Pourquoi tout ce gâchis? Qui je suis quand j'oublie, oui, j'oublie d'être en vie. C'est encore loin l'amour, après tout c'est mon tour. Il est temps d'aller bien, c'est encore loin l'amour. Il est temps d'aller loin, jusqu'au bout, jusqu'au jour où je regretterai ma vieille liberté. Jeune fille compliquée, cherche histoire simple et vraie.
Le bénévole du jour.
Oui, je sais, la bénévole du jour, mais la voix qui faisait ça n'habite plus à Montréal. Alors c'est difficile de lui refaire faire la bénévole du jour. Pardon pour Louise Mercier qui est là aujourd'hui.
Pas de problème,
bonjour
pas
Louise.
De problème, bonjour.
Bénévole chez Vues et Voix depuis oh là là.
Depuis 20 ans cette année là.
Mais
incroyable.
Incroyable, mais vrai. Mais aujourd'hui, il y a, ben, aujourd'hui, cette année, il y a une nouveauté, c'est que vous avez enregistré un de vos livres. En fait, est-ce que c'est votre premier?
Le premier livre? C'est mon premier livre et je croyais que lire mon livre allait être très facile étant donné que
ouais.
c'est moi qui l'ai écrit. Et finalement, ça a été un des livres les plus difficiles à lire parce que mon problème a été que je lisais et j'avais toujours une conversation avec moi-même en me disant « Ah, c'est donc bien, bien écrit ça. » C'est... Ou « Ah, comment ça fait que j'ai écrit ça comme ça? Je comprends rien.
» Mais on dit souvent que lorsqu'on écrit, il faut se relire à voix haute. C'est peut-être à cause de ça.
Ah, je m'étais jamais je me suis relue très, oui. très de nombreuses fois, mais non, pas une fois à voix haute.
Eh bien, voilà. Été... Alors pour le deuxième, mais là, restons sur le premier. Le titre, « Le bonheur, la dépendance à soi-même » et permettez que je lise les tout premiers mots d'introduction. Ce livre se veut avant tout un outil de réflexion permettant au lecteur de percevoir sa situation personnelle et plus spécifiquement sa relation amoureuse dans une autre perspective et ainsi d'en avoir une meilleure compréhension. Moi, quand je lis ça, je me dis, mais alors finalement, il n'y en a pas beaucoup qui sont heureux en amour. Il y en a beaucoup qui...
Non, disons que j'ai voulu écrire ce livre-là justement parce que j'avais remarqué dans mon entourage personnel qu'il y avait pas beaucoup de couples heureux et pas beaucoup de gens qui étaient bien avec l'autre et couplé avec le fait que moi, je suis célibataire, mm-hmm. donc ça fait drôle d'écrire un livre sur la dépendance affective, mais je pense que j'ai un bon point de vue. Mais ce que je trouvais aussi, c'est que les gens, quand... On se présente, j'allais avec des copines à des endroits et tout ça, et mes quatre copines ne sont plus avec leur conjoint présentement, et quand elles disaient « oui, je suis en couple, là, et moi qui disais « ah, je suis célibataire », c'était « ah,
C'est quoi ton problème, toi?
Ah, ah, ah,
quand les quatre autres avaient de sérieux problèmes.
Bien sûr. Ouais.
Donc, ça m'a fait vraiment réfléchir sur la question, sur cette espèce de pression sociale aussi d'être en couple, en plus de la pression qu'on se donne soi-même. Et le fait était aussi que je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de littérature sur la solution, disons.
Voilà, et c'est là que je voulais... En fait, c'était la première question que je voulais vous poser. Parce que pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui ont l'impression qu'ils ne parviennent pas à tomber en amour, à former un couple, ou ceux qui ont l'impression qu'ils ne parviennent jamais à rester en amour et à rester en couple, est-ce que ce livre propose des solutions?
Tout à fait. Et surtout pour ceux qui sont malheureux en couple. Parce que je pense que le problème le plus courant, c'est de ne pas savoir lâcher prise une fois que l'expérience fait en sorte que ce n'est pas un dénouement heureux. Mmh, mmh. Donc, oui, je trouvais que la littérature n'était pas beaucoup orientée sur les solutions. Donc, je dirais que la deuxième partie de mon livre est vraiment orientée vers des solutions. Il n'y a pas de solution miracle.
Non.
Il n'y a pas de solution non plus de... oui, vous lisez ça et demain matin, tout va bien aller.
Non, c'est ça.
Mais il y a vraiment des éveils, je trouve. Personnellement, en lisant toute la littérature pour écrire le livre, j'ai fait plusieurs connexions. J'ai fait du avant-après. Par exemple, je croyais que quand on commençait un couple, on était à la page blanche, ce qui n'est pas tout à fait le cas.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parce que moi, j'arrive avec ma conception du couple, avec ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce que j'ai vu mes parents vivre et l'exemple qu'ils me donnaient comme couple. Et l'autre personne exactement a autre chose. Il y a des fois que ça se recoupe, il y a des intersections, mais il y a des fois que ça ne fonctionne pas du tout. Oui. Et les gens ne se sont jamais posé la question par rapport à ça. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi l'autre ne comprend pas leur perspective et vice-versa.
À ce moment-là, soit ils jettent la pierre sur l'autre, ou alors ils se jettent la pierre sur eux-mêmes, alors que finalement, il y a beaucoup d'éléments à ce moment-là qui leur échappent complètement.
Oui, ou ils continuent à essayer de faire l'espèce de même comportement qui fait que ça ne fonctionne pas.
Mm-hmm.
Donc, je dirais que je trouvais qu'il y avait beaucoup aussi de... OK, la dépendance affective mm-hmm. A telle composante,
ça,
telle
revient
telle
beaucoup,
chose
oui.
et tout ça. Et la source est ci et ça. Et on se dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais?
Oui, c'est ça.
Donc, c'était ça qui était important pour moi.
Oui.
Et il y avait trois choses que je trouvais qui étaient vraiment...
Essentielle.
La première, c'est de se pardonner.
Ah oui, le pardon. Oui,
le pardon et le pardon à soi et le pardon aussi à ses parents. Parce que souvent, dans les situations de dépendance affective, le contexte familial de la petite enfance influence beaucoup la personne et crée ce manque qui fait beaucoup de douleur.
D'ailleurs, vous dites, avant d'essayer d'accorder le pardon à tous ceux qui nous ont causé du tort ou de la souffrance, il faut d'abord s'être pardonné soi-même.
Exactement, exactement.
Ah, c'est de vous,
Merci. c'est quelquefois la chose la plus difficile à faire, de se pardonner soi-même. Je dirais que l'autre clé aussi, c'est de se responsabiliser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se sentent victimes des circonstances, victimes de la vie, victimes de toutes sortes de choses, quand à la base, souvent, où on en est au moment présent, et le fait de nos choix passés, de nos pensées, de nos comportements, de nos attitudes, des perspectives que l'on prend. Donc, c'est de réfléchir à tout ça pour changer la trajectoire. Et aussi, la troisième chose, c'est que les gens sont en réaction à leur vie et non pas en action.
Mm-hmm.
Ils sont souvent dans leurs émotions, ils vivent leurs émotions et ça leur cause de plus en plus de problèmes. Au lieu de, justement... s'observer, avoir un détachement et dire, OK, dans telle situation, ça me provoque tel genre d'émotion, etc.
Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Est-ce que ça n'est pas un peu facile de dire à quelqu'un, non, mais regarde, arrête de réagir, vis simplement. Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres étapes à franchir avant? Comme par exemple, et d'ailleurs, vous le dites dans le bouquin, il faut revenir en arrière, il faut régler ses comptes avec son passé, non?
Oui, c'est certain que cette démarche est une démarche à long terme et une démarche profonde, que je dirais. Mais là, je ne sais pas si on manque
on,
de temps.
On va prendre le temps, Louise, absolument.
D'accord. Alors, oui, c'est une démarche de longue haleine. Le bonheur, pour moi, n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. C'est une habitude à prendre. Donc, ouais. Quelque chose à tous les jours de se recentrer sur une perspective qui peut nous aider, qui peut nous amener plus de joie que de peine. Mm-hmm. Mais c'est certain qu'on va vivre toutes sortes d'émotions. C'est la vie, c'est l'aventure. Mais
exactement. Et si je vous écoute bien à ce moment-là, un bonheur à deux, finalement, il n'est concevable que si on est heureux chacun en soi.
Tout d'abord, oui. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de situations où les gens sont malheureux et se disent « Ah, mais si je suis avec telle personne et si telle personne arrive dans ma vie, ça va résoudre tous mes problèmes. » Non, ça va doubler les problèmes, ouais. En fait, parce ouais. que ça va être tous les problèmes que la personne a à la base ajoutés aux problèmes du conjoint.
Exactement.
Qui ne sont pas résolus. Donc,
Alors, Louise Mercier, le bonheur, la dépendance à soi-même, maintenant disponible via le SQLA. Dans ce livre-là, vous abordez, par exemple, qu'est-ce que la chimie? C'est pourquoi ça fonctionne? Là, on parle vraiment de comment on appelle ça, les phéronomes et tout ça. Donc c'est vraiment chimique, hein, l'amour. Ça, vous en parlez.
Oui, toutes les hormones.
Les hormones. Vous parlez de dépendance affective, le manque. Ça, c'est un chapitre important à un moment oui. donné. Hein? Au cœur de la dépendance affective, le manque. Et en quelques secondes, à un moment donné, vous parlez beaucoup de dépendance amoureuse. Quelle est la différence entre la dépendance affective et la dépendance amoureuse?
En fait, c'est des synonymes, dépendance affective et dépendance amoureuse. Je crois que quand on est en dépendance affective ou amoureuse, c'est que l'espèce d'illusion de l'autre, ouais. On n'est pas dans un rapport à l'autre, mais on est dans un rapport à soi-même qui est biaisé. On s'est imaginé l'autre d'une façon qui va résoudre tous nos problèmes ouais. et on réagit face à cette illusion qu'on a créée de l'autre et c'est voué à l'échec car l'autre ne correspond pas à l'illusion qu'on avait... Créer,
c'est ça.
Exactement.
Alors, et parmi les autres chapitres, évidemment, la communication, le pardon, on en a parlé, le discours intérieur aussi, en tout cas, il y a tout un chapitre là-dessus, la fidélité à soi-même.
Oui.
Hein, et l'autonomie, finalement, parce que finalement, il y a parfois des moments où il vaut mieux être seul, autonome, mais heureux avec sa petite personne, plutôt que d'être à deux et de rejeter la faute et de se jeter des casseroles par la tête.
Mais je considère que la mission de chacun est de découvrir qui il est, ouais. L'essence de qui il est, et de vivre selon cette essence-là. Donc, ça fait très philosophique.
Et votre livre le permet? Honnêtement.
Va donner va aider à...
Va donner des pistes.
Va donner des pistes, des trucs, voilà. des façons de revoir comment on réagit.
Merci Louise Mercier. Louise Mercier qu'on peut entendre le mercredi matin parce que aussi vous êtes bénévole à Kiosque Magazine et on vous en remercie. Je rappelle le titre de votre livre, Le bonheur, virgule, la dépendance à soi-même. Merci et bonne fin de journée Louise.
Merci beaucoup Clotilde.
De bouche à oreille, une page de littérature.
Alors, la semaine prochaine, je vous le disais, si tout va bien, nous recevons Madame Denise Bombardier qui a accepté très gentiment et vraiment tout de suite de venir à l'émission ce qu'on dit de ce dictionnaire amoureux du Québec dont elle va venir nous parler. Une citation d'abord. Les Français ont longtemps cru que les Québécois n'étaient que des Français surgelés. C'est avec ce franc-parler non dénué d'humour que la célèbre journaliste Madame Bombardier nous livre ce portrait très personnel de la belle province dans son dictionnaire amoureux du Québec. J'ai rencontré des gens qui ont adoré ce livre, j'en ai rencontré d'autres qui l'ont vraiment honni, banni et tout ce que vous voulez en disant que ce n'est vraiment que du folklore. Elle dit, madame, à un moment donné, attendez que je retrouve ça, c'est tellement cute parce qu'elle dit « Pourquoi je parlerais de choses qui fâchent ?» Elle dit « Quand on reçoit des amis, on ne parle pas de choses qui fâchent. Alors, je ne leur ai parlé que de ce qui fait que le Québec est le Québec. » Alors, entre autres, par exemple, je suis tombée sur cette page parce que c'est le genre de livre que vous pouvez ouvrir ou donc écouter à n'importe quelle page. Et là, je suis tombée sur l'érable. Alors, elle dit sur l'érable dans son dictionnaire amoureux du Québec « Les Québécois qui usent de l'hyperbole pour tout ou rien vous parleront du sirop d'érable comme de l'or liquide du Québec. Or, avec une production qui tourne autour de 200 000 barils par an, les producteurs, environ 15 000, sont loin d'être des émirs en raquette, » dit Madame Bombardier. « La production annuelle de sirop représente cependant 80 % de la production mondiale. » Il semble que ce soit plus d'ailleurs tout à fait vrai parce qu'on parle beaucoup de la production des États-Unis qui commence à prendre le pas. Donc, Madame Bombardier, dictionnaire amoureux du Québec, j'en parle avec la journaliste et chroniqueuse et blogueuse la semaine prochaine. Et puis Gérald Cousineau sera parmi nous pour nous présenter un livre que je vous avais présenté en rafale et je suis très très heureuse qu'il y ait quelqu'un qui se soit penché là-dessus beaucoup plus et qui nous en parle un peu plus longuement. Il s'agit du cas Edouard Einstein de Laurence Exic. Le résumé, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Une mère laisse son fils de 19 ans à la clinique psychiatrique de Zurich. Il s'agit d'Edouard Einstein, oui, le fils d'Albert, qu'elle a élevé seul après le départ de son mari. Albert, lui, il s'exile aux États-Unis. On est dans les années 30, années troubles. Et c'est Edouard qui se raconte entre deux crises de schizophrénie, deux séjours à l'asile, les traitements de choc. C'est d'une étonnante lucidité, nous dit-on. J'ai un petit extrait à vous présenter de ce livre-là, le cas Edouard Einstein de Laurence Exic, S-E-K-S-I-K.
À la maison, elle prépare les tisanes, prodigue les mots de réconfort. Elle est la sentinelle de la nuit. Ici, les médecins lui ont refusé le droit de dormir auprès de son fils. Un matelas, même le sol, aurait fait l'affaire. Cet enfant a besoin de sa mère. Son frère, Hans Albert, a un caractère différent, indépendant et fort. Édouard est si fragile. Il est resté le petit garçon qu'elle promenait jadis sur les rives de la Limate. Le mouvement de la poussette le berçait. Il souriait aux anges. Son visage n'a pas vraiment changé, sinon cette impression d'étrangeté qui s'affiche désormais au coin des lèvres, et ses grands yeux clairs, toujours perdus dans le vide. Elle aurait consenti à une simple couverture jetée par terre. L'essentiel était qu'Edouard sente sa présence. Un rien peut le briser. La moindre remarque est vue comme une offense. Elle seule console du désespoir et délivre du mal. Rien de ce qui le concerne n'a de secret pour elle. Hélas, depuis quelques semaines, elle ne parvient plus à maîtriser le feu de la colère.
La très belle voix de Mathieu Prost qui nous lisait un extrait de ce livre, Le cas Edouard Einstein, dont nous parlera la semaine prochaine à cette même émission, à Livre Découvert, Gérald Cousineau. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que Laurence Exic est aussi l'auteur de plusieurs autres romans, dont Les derniers jours de Stefan Zweig, qui a été traduit dans 15 langues. C'est un livre qui a connu un grand, grand, grand succès et qu'on retrouve également au SQLA. C'est un livre qui est disponible.
Des nouvelles et des livres.
L'Orangerie, encore lauréat, encore et toujours, et c'est tant mieux. Je pouvais lire ceci notamment dans Le Devoir, c'était le 21 avril 2015. Le Club des Irrésistibles, qui regroupe des lecteurs des bibliothèques de Montréal, a salué pour la 7e édition de son concours qui cherche à nommer le livre de l'année, L'Orangerie, qui est sorti chez Alto de Larry Tremblay. Mais attendez, avec lui, c'était pas que des demi-pointures qui concouraient pour ce prix-là. Il concourait avec Au revoir là-haut,
chez Albin Michel, le prix Goncourt, si je ne m'abuse, en 2013, de Pierre Lemaître. Il y avait aussi En finir avec Eddie Bellegueule, chez Seuil, le livre d'Édouard Louis dont on a parlé tellement. Un homme, ça ne pleure pas, sorti chez Fayard, de Faïsa Guen. Charlotte, sorti chez Gallimard, de David Fuenquinos, dont Marine Orsini est venue nous parler ici même. Et puis l'énorme succès, Le Chardonneret, énorme autant par le nombre de pages que par le succès qu'il a reçu, sorti chez Plomb, de Donna Tartt. Alors L'Orangerie vient aussi de remporter le prix littéraire des collégiens. Mais il faut dire que là, il était le seul titre québécois en lice. Je voudrais vous rappeler que nous avons d'autres titres de Larry Tremblay disponibles au SQLA, notamment Le Christ obèse et Piercing. Le Christ obèse, un très court résumé, on parle d'Edgar. C'est un trentenaire, il est timide, il est asocial, il a toujours vécu dans l'ombre de sa mère, décédée depuis peu, et une nuit, dans un cimetière, il assiste à la violente agression d'une jeune femme que quatre cavaliers de l'Apocalypse, vous voyez dans quelle nuance on se trouve, laisse à demi-morte. Et Edgar décide de recueillir chez lui cette victime inconsciente et il en fait le serment, il sera son sauveur. C'est de Larry Tremblay, Le Christ obèse et Piercing. Piercing qui rassemble trois récits. Vous savez que Larry Tremblay, c'est aussi un homme de théâtre. Alors là, il explore le thème de la ville, le territoire urbain, précisément en tant que théâtre, en tant que lieu initiatique de tous les possibles. Le récit titre, Piercing met en scène une adolescente en fugue, fraîchement arrivée à Montréal, de son Chicoutimi natal. Voilà pour Larry Tremblay, si vous voulez lire autre chose que L'Orangerie.
Quelques nouveautés en rafale.
Et puis, comme je le fais toujours à la fin de chaque émission, j'aime bien vous parler de quelques titres en rafale sortis maintenant disponibles, fraîchement d'ailleurs, depuis très très peu de temps. Notamment, un homme, un historien que vous adorez, je sais que ses livres s'envolent assez rapidement, c'est Max Gallo. On vient d'enregistrer la chute de l'Empire romain. En ce mois d'août 440, c'est un tout petit résumé que j'ai trouvé, Gala Gaia de Zella. Gala, Gaia, on va dire Gaia. Allez, mettons Gaia Placidia, fille, sœur et mère d'empereur romain qui ne craignait pas la mort. Elle est entourée de sa garde personnelle. Elle parcourt la voie pavée qui traversait la ville de Ravenne. Les peuples barbares qui déferlent depuis des décennies par vagues successives, qui surgissent des forêts obscures d'au-delà du Rhin et du Danube. Tout ça, c'est pour vous donner un petit peu le ton. Les légions romaines qui tentent de les contenir, de les refouler, qui dressent un mur derrière lequel la civilisation romaine se déployait. Tiens, ça nous rappelle quelque chose, ça, un mur. Bref, c'est du Max Gallo qui pousse toujours très très loin ses recherches et à chaque fois on en apprend, on en découvre. Cette Gaïa-là, durant toute son enfance, elle avait été persuadée que Rome était le cœur immortel du plus grand empire du monde. Des brumes de l'Angleterre au fleuve de Mésopotamie, du Rhin jusqu'au Nil, et à l'aube de ses 50 ans, Madame Placidia ne craignait pas sa mort, elle redoutait celle, par contre, de l'Empire romain d'Occident. Et là, il pose une question à la fin de ce livre, Monsieur Gallo, c'est « Mais nous, lointains héritiers de Rome, marchons-nous, comme elle autrefois, vers notre mort ?» Voilà la réponse en lisant ce livre, Max Gallo, « La chute de l'Empire romain ». Malabour de Perrine Leblanc. Perrine Leblanc qui est une écrivaine québécoise qui est née à Montréal en 1980, titulaire d'une maîtrise en littérature, qui a travaillé dans le milieu de l'édition depuis 3 ans lorsqu'elle a fait paraître son premier roman, disponible aussi, L'Homme Blanc. C'était en 2010. Cette même année-là, elle a reçu le Grand Prix du Livre de Montréal pour L'Homme Blanc. Alors, Malabour, c'est un lecteur qui en fait le résumé. Il nous dit « Situé entre mer et montagne, sur la rive nord de la baie des Chaleurs, c'est à la géographie et au climat de Gaspésie que le village de Malabour, où se déroule le roman, doit son invention. C'est un village construit le long d'une route nationale qui contourne une réserve indienne, à l'ombre d'une forêt de conifères qui entoure un vaste lac et qui sert aussi de patinoire durant les longs hivers glacés. » Et rien ne distingue à première vue ce Malabour fictif d'une autre bourgade réelle de la contrée. l'horticulteur local et ses chats, la pharmacie-librairie, le phare, la marina, l'école secondaire, les jeunes qui jouent au hockey, tout ça. Mais, bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose de différent qui se passe à Malabour dans ce microclimat singulier propice, il semblerait-il, à toutes les bizarreries olfactives. D'abord, il y a une jeune fille qui disparaît, et puis deux autres, et puis. Eh bien, il va falloir le lire. Malabour de Perrine Leblanc. Je poursuis tout de suite parce que j'aurais peur de manquer de temps avec Mad Woman de Joyce Carol Oates. Un petit résumé aussi d'un lecteur. C'est une jeune fille. Ah oui, il y a beaucoup de boue au départ. On marche vraiment dans de la grosse boîte, comme on dit ici au Québec, au début de ce livre, parce qu'on fait la connaissance d'une jeune fille abandonnée par sa mère, demi-folle, et elle l'abandonne dans des marais, dans des marécages. Et cette jeune fille-là sera adoptée par un couple de Quakers qui vont l'élever avec tendresse. Et elle va devenir Meredith M.R. Neukirchen, la première femme présidente d'une université de grand renom. Donc elle va passer de Mad Girl, comme on l'appelait, à Mad Woman. Et c'est un livre apparemment absolument fascinant. Dans Télérama, on écrivait le 18 décembre 2013, durant toute son existence, M.R., on l'appelait comme ça, lutte contre une tendance somnambulique née du choc de son abandon. Cette façon de s'avancer à l'aveuglette vers son destin donne au livre une torpeur nauséeuse, saisissante, et ajoute un beau personnage dans la galerie des épaves ravagées qui peuplent les romans de Joyce Carol Oates. Et puis, Un ciel rouge le matin de Paul Lynch. Nous sommes au nord-ouest de l'Irlande avec Cole Coy et sa famille qui sont sur le point d'être expulsés de leur ferme. Ils n'ont aucune idée de ce qui a poussé le fils de leur riche propriétaire à prendre cette décision terrible pour eux. Alors, fou de colère et de désespoir, ce fermier va tuer ce jeune homme et du coup, il doit s'enfuir et c'est toute la fuite qu'on nous raconte dans ce bouquin. On nous dit que c'est un formidable livre, la découverte d'un styliste et conteur qui possède un souffle dramatique rare. Dans l'Express, on nous disait en mars 2014 que c'était inspiré d'un fait divers sanglant et que là, vraiment, ce livre nous révèle une plume envoûtante. Voilà, je n'ai plus le temps de vous dire autre chose, si ce n'est remercier mes invités, remercier également Jean-Sébastien Laliberté, vous remerciez-vous d'avoir été là et vous donner rendez-vous la semaine prochaine et bonne lecture.